Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, j'ai comme Godard, Jean-Luc Godard, chapitre 3, les années 80. Portrait du cinéaste en poète, prophète, épître, avec Alain Bergala et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux et bienvenue dans Plan Large pour ce troisième volet de notre feuilleton consacré à ce cinéaste en perpétuelle réinvention qu'est Jean-Luc Godard. Résumé des épisodes précédents, après avoir dissous son nom d'auteur dans le groupe Dziga-Vertov et inventé une manière politique de faire du cinéma, après avoir expérimenté et apprivoisé la vidéo et tenté d'appliquer à la télévision en la sabotant de l'intérieur le traitement de choc qu'il avait réservé au cinéma, Jean-Luc Godard est revenu au pays natal, la Suisse, en s'installant sur les bords du lac Léman, dans ce petit bourg de Rolles où il réside encore aujourd'hui et dont la géographie va considérablement imprégner son cinéma. De là, il va orchestrer avec succès son retour au cinéma plus traditionnel, si tant est que ce mot ait un sens avec lui. Avec succès, puisque après avoir été presque oublié pendant 10 ans, il va se retrouver à incarner le cinéma à lui seul, au point de devenir plus connu que ses propres films. Car de Sauf qui peut la vie à King Lear, c'est dans ces années-là aussi que se sculpte le mythe Godard, une figure paradoxale entre pape du 7e art aussi vénéré que craint, tortionnaire de stars et de techniciens sur les plateaux et révélateur de figures bouleversantes, prophète de la mort du cinéma et pitié aux formules aussi percutantes que sibylline en conférence de presse à Cannes, star enfin de la télévision où, à l'instar d'un Diogène ou d'un Gainsbourg devenu Gainsbar, il joue en véritable performeur le rôle du trublion médiatique qui tente par le dévoilement de sa machinerie de pousser le système à l'implosion. Pendant toutes ces années, un jeune critique des cahiers du cinéma le suit de très près, fait à chaque film le pèlerinage à Rolles, l'observe au travail sur ses tournages et rassemble textes et documents godardiens dans un livre qui fera date, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. C'est Alain Bergala, notre invité dans Plan Large aujourd'hui, après être venu déjà nous parler des années 60 du cinéaste. En fin d'émission, Fernando Ganzo nous parlera lui de l'actrice transformiste et géniale qu'est Tilda Swinton, mais pour l'heure, direction Lausanne dans une chambre d'hôtel, comme il y en aura beaucoup dans ces Golden 80s godardiennes. Jeunes oreilles, s'abstenir.
Bon, tu vas me mettre du rouge, mais seulement quand il te léchera le cul. Et toi Thierry, tu lui lèches l'arrêt du cul, seulement quand l'autre te pompe. Et toi, tu pompes chaque fois que je te touche les nichons du pied. Allez, on essaye. Bon, l'image, ça va. Maintenant, on va faire le son. Quand je te touche les seins avec mon soulié, tu dis aïe et tu le pompes. Vas-y.
Aïe.
Toi, Thierry, quand elle te suce, tu dis « Oh !» et tu lui lèches l'arrêt. Allons-y.
Aïe.
Oh. Et toi, quand il te bouffe le cul, tu fais « Hé !» On va le mettre pas sûr, mais que faisait un geste déplacé. Vas-y, Thierry.
Hé!
Et après, tu mets un peu de rouge. Juste une fois. Et si jamais je te fais un sourire, tu m'embrasses. Allez, on y va.
Aïe!
Oh!
Hé!
Cette scène figure dans un livre de Gilles Deleuze, L'image temps. Il l'a décrit comme la décomposition d'un fantasme sexuel, scène fameuse, aussi osée que burlesque de Sauf qui peut la vie, film de Jean-Luc Godard de 1979, scène qui a fait beaucoup pour le scandale et le succès du film, qui d'ailleurs fait penser à une scène semblable de mise en scène de ces fantasmes par un client avec des prostituées comme actrice. C'était dans Deux ou trois choses que je sais d'elle, on en avait parlé ensemble, Alain Bergala, dans notre premier volet de ce feuilleton. Godard, qu'est-ce qu'il faut voir dans cette scène? C'est une métaphore de la mise en scène, une métaphore du cinéma, ou aussi un pied de nez de Godard qui revient au cinéma, comme on disait, et qui montre qu'il n'est pas pour autant prêt à faire allégeance.
Ça dit beaucoup de choses sur le rapport de Godard aux scènes sexuelles. Godard est le plus puritain des cinéastes, c'est-à-dire que jamais Godard ne filmera une scène sexuelle de façon naturaliste. Et notamment, ce qui lui fait horreur, c'est le mouvement. Les scènes sexuelles, elles sont toujours des tableaux vivants, déjà dévivre sa vie. C'est-à-dire, c'est une chose pour lui. Et deuxième idée de Godard, que Carax après partagera, au cinéma, on ne peut pas montrer, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer, mais on peut tout dire. C'est-à-dire que le langage, là, ce qu'on vient d'entendre, quelqu'un qui ne connaît pas le film imagine peut-être ce qu'il pourrait y avoir sur l'écran. Oh, évidemment, c'est tout le contraire. Sur l'écran, il n'y a que des plans très beaux, très bien éclairés, hiératiques. Donc ça, c'est l'aspect rapport de Godard aux scènes sexuelles. Il restera toujours sur cette ligne. Jamais Godard fera une scène naturaliste, comme dans les films où on voit les gens qui sont en train de faire l'amour ou quelque chose comme ça. Ça lui fait horreur. Donc ça, c'est déjà là, complètement. Et puis l'idée de... Oui, la sexualité, c'est la mise en scène. Et la mise en scène, c'est la sexualité. Parce que Godard n'a jamais arrêté de dire que finalement, les actrices étaient exactement dans la... Et le réalisateur était dans la posture du client et de la prostituée. Puisque le cinéaste dit à une actrice, fais ceci, mets-toi comme ça, et pour lui, c'est clair. Et il y a de l'argent en échange. Donc pour lui, il a toujours défendu cette idée que c'était à peu près, structurellement, disons, la même chose. Et peut-être aussi, dans ce film, peut-être que c'est quelque chose aussi de sa sexualité. C'est une indication sur quel est son rapport, disons, à la sexualité, comme mise en scène.
Alors je l'ai dit, c'est retour au cinéma, c'est-à-dire un cinéma avec des vedettes, avec des acteurs et actrices connus. Isabelle Huppert, c'est elle qu'on a entendu dire « Hey ». Nathalie Baye qui est là aussi. Jacques Dutronc, qu'est-ce qui fait que Godard, à ce moment-là de son parcours artistique, éprouve le besoin de retourner à ce cinéma? Et en même temps, on a le sentiment qu'il met dans ce film-là tout ce qu'il a expérimenté les 10 ans précédentes. Je pense notamment à ses plans de Nathalie Baye vélo descendant comme ça la montagne au-dessus du lac, et ces arrêts, ces ralentissements, ces arrêts sur image qu'on a déjà vus, c'est juste avant, c'est dans France Tour des Tours, Deux Enfants, par exemple.
Donc en fait, il a fait semblant d'hésiter entre tourner le film en vidéo, puisqu'évidemment, tout ce dont vous parlez, en vidéo, c'était très facile. Ralentir, faire des arrêts sur image, au cinéma, c'est beaucoup plus lourd. Donc il a dit, il a réuni l'équipe, tous les techniciens, il leur a dit, on va voter. Qui veut le faire en vidéo, qui veut le faire en cinéma? Évidemment, tous se sont dit, ils veulent le faire en vidéo, ils ont tous voté vidéo, ils ont dit, bon alors on le fait en cinéma. Mais il y avait un vrai plaisir de retrouver la caméra, la pellicule. Sur ce tournage, on voyait qu'il y avait un vrai plaisir de tourner. Je suis allé 2 jours voir un peu des scènes comme ça qu'il était en train de tourner. Et c'est pour nous, enfin, ça a été un film très important. Parce qu'après, il va partir dans autre chose. Il va partir, disons, un peu au-dessus de la pauvre terre des humains. Là, il est en plein dedans. C'est-à-dire, à l'orée des années 80, ce film dit aux gens qui le voient, voilà où on en est. Voilà où on en est. Est-ce qu'il faut vivre à la ville ou à la campagne? Est-ce qu'il faut gagner de l'argent facile ou est-ce qu'il faut travailler? C'est-à-dire, il y avait à peu près toutes les questions qui allaient se poser pendant toute la décennie. C'est-à-dire, Godard retrouvait sa fonction des années 60. C'est-à-dire, les spectateurs qui allaient voir un film comprenaient ce qui se passait pour eux. Et après, ça va un peu disparaître dans un film. Mais là, du coup, c'est un film assez unique. Très grand plaisir, évidemment, d'avoir des actrices. Et des acteurs, Dutronc, magnifique pour lui, et Isabelle Huppert, qui va continuer après un petit bout de chemin avec lui et qui est là totalement impassible, totalement apparemment sans affect, notamment dans les scènes sexuelles où elle regarde le paysage, en gros, derrière.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Poussard ?
Il n'y a pas d'histoire. Tout est correctement éclairé, de gauche à droite, un peu de haut en bas, un peu d'avant en arrière. Ce n'est pas une ronde de nuit, mais une ronde de jour, éclairée par un soleil déjà bas sur l'horizon. Monsieur, qu'à la place qu'a le cul, on a des coins sombres de la toile, un peu en bas, au second plan, entre un homme en rouge foncé et le capitaine habillé en noir, cette lumière excentrique a d'autant plus d'activité que le contraste avec ce qui l'avoisine est plus subi, et que, sans des précautions extrêmes, il aurait suffi de cette explosion de lumière accidentelle pour désorganiser tout le tableau.
Arrêtez vos histoires, moi j'ai assez.
Ça va pas. Ça demain.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui ne va pas. Pourquoi tu veux pas travailler?
C'est pas moi qui ne va pas, c'est la lumière.
Ça fait 4 mois que ça dure. Je te laisse une semaine encore et après j'abandonne.
Ah bon, moi j'abandonne aussi, maintenant.
Écoute, Jerry.
J'abandonne.
On se souvient qu'on avait vu Raoul Coutard derrière sa caméra dans le fameux générique du Mépris. Là, c'est sa voix qu'on entend dans Passion. Il analyse la lumière d'un plan qui reconstitue la fameuse ronde de nuit de Rembrandt. Et puis, on entend ce cinéaste qui est joué par Jerzy Radziwiłłowicz, qui s'appelle Jerzy, dans le film, qui fait beaucoup penser à Godard, peut-être, qui se retrouve, grâce au succès de Sauf qui peut la vie, avec un gros budget, qui lui permet de reconstituer ses toiles avec foultitude de figurants dans un studio et des mouvements de caméra très compliqués. Mais est-ce que vous qui avez assisté à ce tournage, Alain Bergala, est-ce que Godard était aussi dépassé que le cinéaste du film dans le film peut l'être à ce moment-là? Enfin, c'est pas tant qu'il est dépassé, mais c'est qu'il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas un échec au sens où je voudrais faire quelque chose et je n'y arrive pas. C'est l'idée que ce que je veux faire est impossible. Enfin, en tout cas, le dépassement du cinéma que je voudrais atteindre, j'ai pas assez de force. Donc, évidemment, comme toujours, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, Godard fait le film. Et il fait un film assez important et somptueux, tout en disant que Jerzy ne peut pas le faire et que ça va s'arrêter comme ça. Bon, c'est un truc, hein. Je veux dire, toute sa vie, il a à peu près dit ça chaque fois que la situation se présente. Alors, c'est un film absolument essentiel dans l'œuvre de Godard. Et dans les années 80, puisque ça ouvre, c'est la seule fois, je pense, où Godard a fait 3 films qui s'enchaînent. C'est une trilogie. Donc, Passion, Prénom Carmen et Je vous salue Marie. Et dans ce film arrive Myriam Roussel, qui va être au centre à peu près des 3 films.
Voilà, ça, on va en parler avec Je vous salue Marie, voilà. Notamment. Mais vous avez assisté, vous l'avez raconté, à ce à un moment, Godard vous invite, l'équipe des Cahiers du cinéma, et vous assistez à ce plan très compliqué, à la grue, qui est autour de la reconstitution
de la croix,
voilà, l'entrée des croisés à Constantinople, et qui est centrée effectivement sur cette figure de Myriam Roussel. Vous ne savez pas encore ce qui va devenir de cette actrice, mais c'est aussi pour Godard un moyen de jouer avec toute cette machinerie hollywoodienne. On sait qu'il avait le projet de tourner un film produit par Coppola, dans les studios de Coppola, Azotrope, au moment de Coup de cœur, qu'il a fait un essai avec Vittorio Storaro, et que tous ces films, les films que Godard n'a pas fait dans ces années-là, sont presque aussi importants que ceux qu'il a fait, puisqu'on en retrouve les traces dans tous les films à venir.
Tout à fait. Bon, il était visiblement très fier et très heureux, puisque si, quand il nous a, enfin, quand il appelle Danet, Toubiana et moi, disant venez demain matin, il nous dit pas pourquoi. Il était comme un petit garçon qui a eu un très beau train électrique. Et c'est vrai que nous, on était hyper impressionnés, puisque nous, on avait toujours défendu Godard, cinéaste, petit moyen, etc. Puis là, c'était hollywoodien, réellement, quoi. Et c'était quand même très beau à voir, y compris l'acharnement sur le nombre de prises, qui n'est pas une chose très godardienne d'habitude. C'est comme si il avait voulu que ça ne s'arrête pas, ce plan-là, qui était quand même le plan le plus luxueux. Il y avait des chevaux, il y avait des types qui s'occupaient des chevaux. Enfin, c'était pour nous impensable que Godard un jour fasse ça. Voilà. Et mais c'était pas du tout, par rapport au film et par rapport à Jerzy, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que Godard était heureux, fier, voilà, c'était un très beau moment, je pense, de son travail. Alors, c'est un film, par ailleurs, absolument fondamental sur les rapports de la vie et du cinéma, puisque le film est vraiment structuré comme ça. Il y a les scènes dans le studio où Jerzy essaye de faire les grands tableaux d'histoire de la peinture, et puis il y a la petite vie qui grouille, l'hôtel, le café, le côté village du lieu où ça se tourne. Et c'est un scénario incroyable. C'est-à-dire qu'on dit toujours, ouais, Godard n'écrit pas de scénario. Il y a peu de films, soi-disant très scénarisés, qui racontent autant d'histoires en même temps. C'est-à-dire, si on prend le temps de regarder le film vraiment, il y a 20 histoires qui sont entremêlées et qui ne sont pas abandonnées. C'est-à-dire, on peut suivre les personnages, qu'est-ce qui leur arrive, comment ils sont dans les relations avec les autres. Donc, c'était aussi une façon pour Godard de dire, non seulement je peux faire des plans comme ça, mais je peux aussi écrire un scénario. Enfin, on me dit que je n'en suis pas capable. J'en suis capable. Juste, c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans le cinéma. Mais il y avait l'affirmation. Donc, c'était un film de double affirmation. Alors que le film raconte l'histoire de quelqu'un qui doute, Godard doute, mais de quelqu'un qui est un échec.
Ah, très heureux, monsieur Godard.
17 sur 1, 6e. Président Mao a dit, il faut avoir les chiffres en tête. On a bien oublié, hein, celui-là. Pourtant, c'est un grand cuisinier.
Ah oui.
Bah oui, il a donné à manger à toute la Chine.
Bon, il faut que je vous parle de notre affaire.
Mais Carmen, elle est pas là. Voilà.
Elle ne viendra pas.
Voilà.
Elle ne travaille pas très bien en ce moment.
Ouais, elle est amoureuse.
Exactement.
Amoureuse.
Mais je sais pas qui.
Amoureuse.
Vous voulez des brioches?
Je veux bien.
S'il vous plaît, des brioches pour mon ami.
Voilà. Quelle bande d'ordures, hein, ces jeunes. Ils n'ont pas inventé la cigarette, pas le blue jean, rien.
Ils ont inventé le chômage.
Pas vraiment. En tout cas, ils ne l'ont pas cherché.
Il faut
chercher, hein. Van Gogh a cherché un peu de jaune. Quand le soleil a disparu, il faut chercher, mon vieux. Il faut chercher.
Oui. Il faut que je vous parle de notre affaire. Venez un peu.
Il faut chercher.
Il faut chercher, toujours chercher, invention en direct du personnage Godard à l'écran. C'était dans Prénom Carmen avec cet oncle Jeannot, un cinéaste retraité qu'on a sorti de son hôpital psychiatrique pour un pseudo-tournage qui va servir de paravent à l'enlèvement d'un milliardaire dans un hôtel. Alors évidemment, Godard avait déjà expérimenté son personnage burlesque dans les années de Zygavertov, par exemple, avec Jean-Pierre Gorin. C'était dans Vladimir et Rosa, mais c'est pour beaucoup, et c'était très noté à l'époque, la révélation d'un grand acteur burlesque. Un peu ronchon, donneur de leçons, qu'on verra en idiot dostoïevskien plus tard dans Soigne ta droite, en professeur Pluggy, on va en parler tout à l'heure dans King Lear. Godard raconte à l'époque, alors vous nous direz si c'est vrai ou pas, que si c'est, je crois que c'était dans l'avant-scène qu'il avait dit ça, si j'ai eu envie d'être acteur, c'est que je voulais m'éloigner du champ de la technique qui m'ennuyait. Qu'est-ce qui fait que Godard s'impose comme acteur, et on le reverra dans toutes ces années-là, à la Bergala?
D'abord, je pense que c'était une époque où il y avait des grands cinéastes qui jouaient dans leurs films. Moretti, enfin, il y avait... Et évidemment, lui, il a attrapé ça. Et surtout, il avait évidemment quelque chose à dire sur... À l'époque, il parlait de fin du cinéma. Et il voulait incarner le dernier des cinéastes, en gros. Et le dernier cinéaste, d'après lui, dans une société, dans un système où il n'y avait plus de place pour un vrai cinéaste. Et du coup, il invente ce personnage qui va quand même suivre pendant toutes les années 80 du cinéaste un peu paumé, un peu loufoque, un peu burlesque, mais qui incarne quelque chose pour lui de très très important. Peut-être que la seule façon de faire du cinéma, c'est d'être ça, et de pas être quelqu'un qui se prend très au sérieux. Et voilà, donc c'est assez beau, parce que c'est une image, finalement, un peu burlesque de lui dans le cinéma de l'époque, complètement, et ça donne du coup l'idée de ce qu'il pense, lui, du cinéma de l'époque. Et on le voit bien là quand il parle aux jeunes et tout ça, c'est-à-dire l'idée, c'est fini. Chose un peu qui va devenir un peu lassante, c'est-à-dire je suis le dernier, il n'y aura plus de cinéma après moi, j'accompagne la mort du cinéma. Ce que Danet, à sa façon, a fait aussi. Et évidemment, aujourd'hui, on se dit que le cinéma n'est pas mort comme il pensait. Pour le dire simplement, il y a encore des salles, il y a encore des films, il y a des séries, c'est-à-dire finalement, la prophétie n'était pas la bonne.
Mais ce qu'il prophétise, peut-être sans le savoir, c'est la façon de faire du cinéma avec de tout petits moyens, parce que vous parliez de la grosse machinerie de Passion, ici c'est tout le contraire dans Prénom Carmen, à tel point qu'Isabelle Adjani, qui était prévue au départ pour jouer Carmen, va s'enfuir littéralement du tournage devant la modestie même des moyens, et c'est à nouveau Raoul Coutard, donc son grand complice des années 60, qui fait la lumière dans ce film, et qui avec rien, mais vraiment rien, arrive à faire des choses absolument magnifiques.
Ça c'est absolument formidable. Parce que pour Godard, la chose la plus importante, c'est la tenue de l'image. C'est le fait que l'image doit être impeccable. Mais à un moment, surtout sortant de Passion, une image impeccable, ça se fait avec un projecteur. Ou sans projecteur. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des choses aussi belles, aussi pures, finalement, et aussi nettes, avec des tout petits moyens qu'avec des moyens plus industriels, disons, normaux. Alors, non, prenons quand même comme une chose, pour moi, unique dans le parcours de Godard, c'est que Godard, par rapport au désir, aux actrices, etc., n'a jamais aimé les actrices, comme dirait Hitchcock, aux attributs sexuels évidents. Et là, le fait qu'Adjani, c'est quand même le contraire. De ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire le fait qu'Adjani parte, je pense que ça les a soulagés tous les deux. Godard n'a jamais dit « elle est nulle », etc. Il a plutôt dit « ouf ». Et le fait qu'arrive d'un seul coup cette actrice, deux jours après le début du tournage, avec le corps qu'elle a,
Marouchka Detmers,
d'un seul coup il se passe quelque chose, quoi. Qui n'a jamais eu lieu chez Godard. C'est-à-dire il n'a pas peur, il fait des plans très très corporelle sur elle, et donc il y a une sorte de petit moment d'une vérité qu'on n'aura jamais plus, qu'on n'a jamais eu avant chez Godard. Qu'est-ce que c'est que le rapport à un corps d'actrice désirable? Parce que finalement, lui, les actrices qu'il a choisies toute sa vie, c'est des actrices qui sont un peu hors sexe, enfin hors représentation du sexe. Et là, elle incarne vraiment le sexe, enfin la sexualité. Et c'est très émouvant. Enfin, pour moi, c'était très émouvant de voir que d'un seul coup, Godard était comme tout le monde. J'étais capable d'être un peu extasié devant un corps, des seins comme ça de cette actrice.
Et à toi, Marie. Qu'est-ce que vous voulez ?
Et toi ?
Et toi ?
Gare 87, la chaîne à la fontaine. Rodino Ticinese, dernier appel.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Et vous, mademoiselle ? C'est ta fiancée ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
On s'en fiche.
On s'en fiche.
Mais tu vas avoir un enfant.
De qui ?
Tu vas avoir un enfant.
Je couche avec personne.
Marie, merde. C'est quoi ce chien ?
Allez tout droit. Voilà 500 dollars.
De qui ?
Et il sera pas de lui. Jamais.
De qui ?
Fais pas l'innocente.
De qui ?
Marie, sois pure. Sois dure. Ne cherche que ta voix.
Ma voix ? Mon chemin ou le son de ma voix ?
Ne fais pas l'imbécile, j'ai ta parole, et tu trouveras bientôt la tienne.
N'oublie pas!
N'oublie pas!
pas, ce qui entre sort.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Luc Godard, chapitre 3, les années 80 avec Alain Bergala. Vous venez de nous parler d'extase pour prénom Carmen. C'est une autre sorte d'extase qu'on voit dans ce film. Je vous salue Marie. Film centré, vous l'avez dit tout à l'heure, sur Myriam Roussel, donc qu'on avait vu en figurante dans Passion, qui joue une violoniste dans Prénom Carmen, dans le quatuor qui fait office de chœur antique dans Prénom Carmen. Et là, c'est un film entièrement sur, avec, par Myriam Roussel.
Bon, là, c'est l'aboutissement, réellement. Il voulait lui écrire un scénario. Il voulait absolument qu'elle retourne avec elle. Il voulait lui écrire un scénario. Il lui a proposé Freud et sa première patiente. Elle n'a pas voulu. Après, il lui a dit on pourrait faire Dieu et... et donc, il a tourné un peu autour de ça et il finit sur Je vous salue, Marie, qui est quand même un film incroyable de pureté, de beauté, à tel point que c'est inexplicable qu'à l'époque, les intégristes venaient brûler des cierges devant MK2, en disant « N'entrez pas, vous irez en enfer ».
Balancer des boules puantes, ouais. Film interdit par la mairie de Versailles.
C'est absolument invraisemblable. Quand on voit, il n'y a pas de film plus pur et plus juste sur Marie.
Mais notamment sur le sentiment du sacré, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé chez Godard, mais qu'on va beaucoup ressentir par la suite. Il y a un sentiment du sacré chez Godard, mais qui passe par la beauté, précisément.
Là, c'est un des... sujets principaux des années 80 pour lui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut approcher la beauté. Puisqu'il cite une phrase qui dit que c'est le commencement de la terreur que nous sommes capables de supporter. C'est-à-dire un rapport, pas du tout un rapport facile de captation. Ça, c'était les années 60. La beauté, pas de problème. Il mettait la caméra, il tournait, la beauté était là. Là, ça devient très très difficile dans les années 80 à cause des images qui encerclent le cinéma. Toutes les images, la pub, le porno, etc. Et dans Je vous salue Marie, est-ce que je peux arriver à faire un plan du ventre de Marie qui soit rien de tout ça, qui soit pur, etc. Et il y arrive. Mais il y arrive, mais c'est très très long et très très compliqué.
Six mois de tournage.
Voilà. En fait, la durée de tournage était liée au fait qu'à un moment, il n'y avait plus d'argent. Et c'était lui qui produisait, en grande partie. C'est pas un film où l'argent était facile à trouver. Et du coup, il a interrompu le tournage pour faire Détective, pour gagner de l'argent. Et avec l'argent de Détective, il a continué Je vous salue Marie. C'était un film, je pensais que c'est le film qui a le plus tenu à cœur. Et il a été très déçu de ce qui s'est passé à la sortie, parce que pour lui, il n'y avait aucun problème. Et il pensait même que, comme c'est un mythe universel en Occident, ça allait marcher, enfin que les gens allaient avoir envie d'avoir ça. Donc ça a été une vraie, vraie déception pour lui. C'est pas un échec, mais il pensait que ce film allait être autre chose par rapport au public que ce qu'étaient ces films, disons, de l'époque. Alors, il y a une idée aussi importante dans ce film, c'est que normalement, quand on raconte l'histoire de Marie, on ne parle pas beaucoup de Joseph. Et lui, il s'identifie aux souffrances de Joseph. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme à qui on dit ta fiancée est enceinte alors qu'il n'a pas couché avec elle, elle n'a pas connu d'autres hommes. Et Godard filme très très bien le chemin que cet homme doit faire pour accepter ça. Donc c'est autant un film sur Joseph qu'un film sur Marie, parce que les années 80, c'est des années où dans les années 60, il n'y avait pas de problème. Il fallait une actrice, il fallait une Carina, il fallait une femme, et le monde passait par la façon dont elle recevait le monde, et donc Godard pouvait la filmer, elle, pour capter le monde. Là, dans les années 80, c'est plus ça. Les années 80, c'est... Il revient aussi du côté des hommes. Qu'est-ce que c'est que les hommes défaits des années 80? Qu'est-ce que c'est que Johnny Hallyday, comme ça, dans Détective? C'est-à-dire que il y a un décentrement. Et dans ce film-là, c'est très beau, parce qu'il y a à la fois l'homme et la femme. Il y a à la fois Marie et il y a à la fois Joseph. Et il suit les deux presque à égalité. Et parce que la plus belle scène du film, c'est évidemment celle où Marie va autoriser Joseph à toucher son ventre avec sa main, à condition qu'il soit pur. enfin que ses intentions soient pures, et elle y arrive, mais au prix d'une pédagogie godardienne. C'est-à-dire, c'est très très long, il faut beaucoup de prises pour que ce plan soit possible.
Il faut beaucoup de temps, ce qui donnera cette réplique, qui rappellera des souvenirs cinématographiques. « Oh Marie, quel drôle de chemin j'ai dû faire pour arriver jusqu'à toi !» Il me semble que c'est un des films où Godard se rapproche le plus, ou tente de le faire, de Bresson. Non seulement parce qu'il y a la citation de cette phrase de Pickpocket, mais il y a des plans d'animaux, des plans de fermes, des plans d'ânes. C'est la transition aussi de Godard vers un cinéaste de la nature, et parfois de la beauté d'un simple plan d'animal, de fleurs.
Tout à fait. Il essaye, devant la difficulté de filmer encore un plan innocent du corps d'une jeune fille, le point de comparaison, c'est la nature. La nature est innocente. En tout cas, la nature, si on la filme, ça revient uniquement à la caméra d'en filmer la beauté. Dans les rapports avec les acteurs, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc c'est vrai, c'est le début d'une grande, grande série de plans qu'il va faire dans la nature qui environne Rôle, où il y a de tout. Il y a le lac, il y a les forêts, il y a tout. Du coup, il dit que finalement, s'il est resté là, c'est parce qu'il y avait le plus grand studio naturel du monde autour de lui.
Il faut dire que c'est une période où Godard a beaucoup de mal avec les acteurs, en tout cas les stars. Vous parlez de ce tournage de Détective, Claude Brasseur en fait les frais. Johnny Hallyday, Godard l'aime beaucoup parce qu'il fait juste ce qu'il lui demande de faire sans essayer d'interpréter quoi que ce soit. Il y a cette scène fameuse où Alain Cuny, dans les toilettes, va prendre le personnage de Claude Brasseur à partie en lui disant « Écoutez, nous ne sommes pas dans un de ces petits films français où les acteurs croient qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour penser. » C'est la fin quasiment du rapport de Godard avec le comédien professionnel, les professionnels de la profession, comme il les appellera au César.
Oui, c'est vrai que le rapport avec Johnny a été très bon, parce que Johnny est quelqu'un de sérieux et qui travaille. Et je me souviens, il avait monté le film et il n'a pas pu payer la musique. C'était trop cher. Et du coup, il a refait entièrement la bande-son et il avait appelé Johnny, Léo, moi et son équipe. On venait voir la nouvelle version. Et on était trois dans la salle, quoi. Et, mais il y avait Johnny. Et donc Godard disait, voyez, lui, c'est un musicien, il vient écouter la nouvelle musique. Donc le rapport, finalement, à des acteurs comme Johnny, dont on pense qu'ils n'ont rien à voir avec Godard, c'est souvent celui qui marche le mieux. Ça sera pareil avec Delon, parce que Delon, on pourrait penser que ça serait très difficile entre eux, pas du tout. Parce que Delon était aussi respectueux que Johnny pouvait l'être de Godard, ce qui n'est pas le cas avec Depardieu. Depardieu, voilà, lui, ça s'est très très mal passé. Donc, en tout cas, c'est des hommes, tout ça. C'est-à-dire que faire un film, finalement, ça devient autant avoir des rapports avec des acteurs hommes sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme dans les années 80 que sur les actrices.
J'ai entendu votre nom à la radio il y a 2 ou 3 ans. Ouais.
Ah oui, oui. Dites-moi, je voudrais vous demander quelque chose.
Ouais.
Pourquoi Polanski touche 2,5 milliards?
Roman? Des dollars?
Non, non, des anciens francs, mais quand même. C'est beaucoup.
Pour faire un film aux États-Unis?
Aux États-Unis, en Europe, enfin un film, un film.
Ouais, mais qu'est-ce qui vous chagrine là-dedans?
Ben, moi, je pourrais en faire 10.
Et lui, il peut en faire qu'un?
Ben oui.
Et alors?
Ben alors.
Vous
alors,
faites un film de quoi? 10, ah, ça fait 2,5 millions de francs. Vous
voilà.
Faites un film de 2,5 millions de francs, et puis lui de 10 fois?
D'un 2,5 millions de francs.
Donc il fait. Mais il en fait qu'un.
Ben moi je pourrais en faire 10 alors.
Ouais, mais vous faites 10 fois plus que lui, mais en moins. C'est ça qui vous chagrine?
Ouais. Ben oui, ça me chagrine.
Non, on n'est pas des pirates.
On n'est pas des pirates, quoique, rencontre au sommet dans un parking entre Jean-Pierre Mocky, un producteur de cinéma au bout du rouleau, et Jean-Luc Godard dans son propre rôle. C'est Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, un film qui était longtemps invisible jusqu'à sa sortie en salle puis en DVD chez Capricci. Hein, c'était il y a 2 ans, et pour cause, c'est un téléfilm, comme on dit dans les classifications du Centre National de la Cinématographie. Téléfilm diffusé sur TF1 en 1986, peu après sa privatisation. Mais oui, ça a été diffusé dans la télévision de Bouygues. Et après Détective, c'était encore pour Godard une façon de s'affranchir d'une commande, de la détourner, de la retourner en faisant ce film assez émouvant, Alain Bergala.
Il a été très content. Godard a toujours aimé la commande. Sauf que là, il n'a pas saboté. D'habitude, il fait une commande, après il dit oui, ils n'ont pas voulu du film que j'ai fait, c'est des nuls. Là, pas du tout. C'est-à-dire, finalement, le statut de faire un téléfilm, il savait combien il avait d'argent, il a juste demandé de rendre aucun compte, de rendre le film. C'est-à-dire, il ne voulait pas de contrôle sur la façon dont il utilisait l'argent. Il a utilisé, évidemment, comme toujours, de façon très très sérieuse, puisque dans ce film a été tourné à longue... Il fallait qu'aucune scène ne soit tournée s'il ne pouvait pas tirer des câbles de son bureau. Donc ça limite évidemment l'espace.
Ouais, c'est tourné dans les bureaux de JLG Film, voilà, à Neuilly.
De l'époque. Et donc, je sais pas, à l'époque, on devait pouvoir mettre 300 mètres de câbles, en louant beaucoup de câbles. Tout le film est fait comme ça, à l'intérieur. Alors, dans ce film, il y a une chose magnifique, c'est, si on peut dire, c'est la fin. C'est-à-dire, bon, dans ce film, il y a une conscience très très grande que là, pour le coup, il y a les dinosaures. C'est-à-dire Mocky, lui et Léo, qui sont des vieux éléphants qui ont été le cinéma, et arrive à la fin du film, dans les locaux de Godard, des branchés qui dansent en marchant, qui ont totalement décervelés, c'est-à-dire il dit voilà, c'est
habillé
ça la
catastrophe. Habillé en jupe Jean-Paul Gaultier.
Godard dit c'est ça la catastrophe, c'est-à-dire notre génération, bon, on est vieux, c'est fini, c'est normal, c'est fini, mais ce qui arrive n'est plus le cinéma. Idée qui va être obsédante pour lui dans les années 80. Et puis, bon, il fait une chose très belle dans ce film, c'est qu'il fait le casting, il va à l'agence locale de l'emploi et il recrute 20 demandeurs d'emploi. Il triche un peu, parce qu'au milieu, il y en a qui ne sont pas des vrais demandeurs d'emploi.
Il y a Nathalie Richard, voilà. Il me semble avoir reconnu.
Mais enfin, en gros, c'est quand même ça l'idée, et il en fait quelque chose. C'est-à-dire, il leur fait dire une seule phrase, en les faisant tourner, qui est une très très belle idée, une phrase de Faulkner, qu'à l'époque était très importante pour lui. Et il y a Jean-Pierre Léaud, quoi, qui est lui aussi, finalement, un dinosaure, quelqu'un qui vient du cinéma, que Godard a aimé, et qui joue un rôle de quelqu'un qui travaille dans le cinéma, qui est un assistant. Et il y a dans ce film, chose très importante pour Godard, des réminiscences. Il y a une des filles qui joue dans le film qui lui rappelle Dita Parlow, et donc il fait des surimpressions entre Dita Parlow et... Alors, c'est une chose...
Ce sont déjà les histoires du cinéma là, qui commencent
à arriver. Et il y a cette idée alors très importante chez Godard, que quand il choisit un visage, il le choisit parce qu'en palimpseste, il y a ce qu'il a aimé. Même Anna Karina. Anna Karina, déjà, dès qu'elle arrive, il voit dans son visage les films qu'il a aimés avant, du cinéma muet. Elle a une forme de visage, du cinéma muet. Donc ça traverse tout. Et là, sur cette femme qui lui rappelle Dita Parlow, c'est absolument magnifique, de mélancolie. C'est quand même des films extrêmement mélancoliques.
Et on voit aussi à l'image une grande directrice de la photographie, qui est Caroline Champetier, qui apparaît dans le film, qui filme ses essais, qui est à l'époque en apprentissage chez Godard. Et elle a toujours raconté, elle avait commencé comme photographe de plateau sur Détective, combien elle avait été frappée par le côté manuel de Godard, son côté touche à tout, il touche tous les câbles, la caméra, mais même dans sa manière de diriger les comédiens, ça se passe par le geste, par le fait de les orienter. C'est quelque chose que vous aviez observé aussi, Alain Bergala, sur les tournages de Godard ?
Oui, puis le fait que Godard dit finalement, si je devais choisir entre être aveugle ou qu'on me coupe les mains, je préférerais être aveugle. C'est une phrase de cinéaste un peu paradoxale. C'est vrai que pour lui, le cinéma doit rester quelque chose de manuel, en tout cas, dans l'idée. C'est-à-dire, c'est pas que cérébral. Il faut surtout pas que ce soit que cérébral. Et ça ne l'est pas. Les gens qui, pendant longtemps, ont pensé que Godard était un intellectuel, etc., se trompent complètement. Godard, à l'image, au son, c'est quelqu'un d'extrêmement sensuel. Enfin, il y a quelque chose, effectivement, du tactile dans ce rapport-là. Effectivement, Caroline Champetier, à l'époque, au cahier, je lui avais demandé d'aller faire des photos du tournage de Détective, et c'est là où elle l'a rencontré, finalement. Et après, elle va devenir sa chef-op, réellement, dans des films suivants. Et effectivement, on avait publié des photos de Caroline Champetier, où on voyait que Godard n'arrêtait pas de toucher le décor, les costumes, etc.
It was not Leah with three daughters. It was Kate,
Dad,
with three fathers. Mailer as a star, Mailer as a father, and me as a director. Too much indeed.
Dad.
For this young lady from Provincetown. After the fifth take of the first shot, the great writer left the set. He took off for America, as he said. He and his daughter, first class.
Don King,
daughter's
Don
boyfriend,
Nero,
economy.
Don Gloucester?
Don Gloucester.
Don Gloucester. Why are you so interested in the mafia?
Anyway, I was fired. I kept on thinking about the relation of heart and fire.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Jean-Luc Godard, chapitre 3, les années 80 avec Alain Bergala. Et on termine cette évocation des Golden 80s de Godard avec son film maudit, le mythique King Lear. Film donc il faudra là encore attendre longtemps avant de voir en salle. Il va sortir en 2002 seulement, alors qu'il a été tourné en 1987. Alors toute l'histoire est célèbre maintenant. Le film met du temps à sortir, d'abord parce que son commanditaire, Menachem Golan, le patron de la fameuse Canon, hein, qui avait fait sa fortune avec des films d'action avec Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme, mais qui produisait aussi ici et là des Cassavetes, des Altman, des Konchalowski. Golan donc avait été horrifié par le résultat du film, il avait refusé de le sortir. Ensuite il fait faillite, donc le film est bloqué, mais finalement ça arrangeait bien Godard d'une certaine façon, Alain Bergala, que ce film soit invisible et soit quasiment devienne un mythe, ce qu'il a été pendant des années.
C'est aussi une des constantes, finalement, de Godard. Il y a des films dont il est très content qu'ils soient un peu attendus ou qu'ils soient invisibles, etc. C'est un peu ce qui s'est repassé très très récemment sur le dernier film.
Sur le livre d'images.
Oui. Il dit,
il organise sa rareté, quasiment.
Voilà. Et après, finalement, il cède quand même. Parce que les films finissent toujours par sortir et par être vus. Mais là, il y avait aussi la difficulté du film. À l'époque, je me souviens, c'était un film très difficile. En fait, tous les films de Godard, la première fois où on les voit, ont l'air un peu difficiles, mais très vite, on les apprivoise. Celui-là résistait beaucoup. C'était un film très très résistant. Et il y avait aussi cette idée très godardienne, c'est que qu'est-ce que c'est bien quand le commanditaire refuse ce qu'on a fait.
Mais il le met en scène dès le début du film, puisque ce qu'on entend dans le générique de début, c'est la voix au téléphone de Menachem Golan qui se plaint parce que le film n'est toujours pas tourné, il faut qu'il soit projeté au Festival de Cannes en 1987, vous vous y êtes engagé, etc.
Oui, il adore ça, et c'est un moteur pour lui de la création. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a une commande, soit elle lui plaît, tout va bien avec les commanditaires, soit il y a un peu de tirage avec le commanditaire et là il en profite. C'est-à-dire que de ce coup, ça devient, au contraire, il arc-boute le film contre l'attente, évidemment toujours idiote, du commanditaire. Donc ce film-là fait partie vraiment de cette catégorie, et Godard est capable d'inventer des accidents pour que ça se passe mal.
Par exemple, ce qu'on vient d'entendre avec Norman Mailer, qui est le scénariste du film, payé très cher pour ça, et qui doit jouer lui-même King Lear. Et on a le sentiment que Godard s'arrange pour qu'au bout de 5 prises, Mailer n'en puisse plus et retourne aux États-Unis, ce qui se permet de se débarrasser à la fois de la star et du scénariste.
C'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement, au début de Prénom Carmen. C'est-à-dire l'idée que pour que le film démarre vraiment, il faut qu'il y ait un accident. Ça peut être n'importe quoi chez Godard. En tout cas, c'est comme s'il avait besoin de quelque chose qui résiste. Et à ce moment-là, il part et il se lance. Dans ce film, on retrouve évidemment le personnage du cinéaste.
Professeur
avec des jacks, des jacks sur la tête, comme une perruque de Jack, et qui est très très drôle. C'est un des films où Godard va le plus loin dans cette auto-représentation de lui, un cinéaste un peu tapé, qui est prophète. Parce qu'évidemment, il y a toujours les deux côtés. Il y a le côté un peu tapé et prophète. Et quand il est prophète, évidemment, c'est toujours très important à suivre ce qu'il est en train de nous dire sur l'état du cinéma.
Mais c'est là que ce film devient très passionnant à revoir aujourd'hui, parce que vous disiez qu'à l'époque il résistait, et c'est souvent le cas avec les films de Godard, on a le sentiment qu'il faudra attendre pour les comprendre, et quand on le revoit aujourd'hui, on est frappé d'abord par sa beauté, il me semble qu'elle avait un peu échappé aux critiques à l'époque, mais par aussi tout ce que ce film annonce de ce que va être le Godard des années 90-2000. On y retrouve à la fois les histoires du cinéma, il y a certains plans plans, on a le sentiment que le film est en cours de montage et qu'il nous en donne presque un teaser, on dirait aujourd'hui, une bande-annonce. Mais c'est aussi le cinéaste du Lac, qu'il va beaucoup filmer, du Lac Léman, qu'il va beaucoup filmer par la suite. Et tout le Godard à venir est dans ce film.
Mais c'est un peu en magma. Enfin, pas en magma, mais c'est un peu...
Il y a voilà, des envies qui sont là.
Voilà, les envies qui sont là, il les essaie. C'est un film où il y a beaucoup de choses essayées. Et après, il va les développer. Il va même les développer pendant des années, avec les histoires du cinéma. C'est-à-dire, c'est un film, c'est une matrice, finalement, d'envies, d'essais, de rapports aux acteurs. Il convoque Léos Carax, qui était un peu en souffrance par rapport à un film qui ne se faisait pas, et il accueille. C'est aussi un film où il y a comme ça l'idée de j'accueille les gens que je veux un peu protéger, enfin.
Julie Delpy aussi.
Voilà, Julie Delpy. Et puis, comme toujours, évidemment, des jeunes filles, dont le visage l'inspire et qu'il a envie de mettre en scène, même s'il ne sait pas encore dans quoi, si j'ose dire.
Tu veux faire d'abord une de bavardage comme ça ?
Y avait-il un dernier degré dans l'amplification du silence ? Il semble à l'individu que oui. Mais combien, oh, combien de sanglots pour un air de guitare ? Qui va surgir vient des temps anciens.
Mitsuko au travail, filmé, comme le dirait Jean-Luc Godard, au moment où il savait aussi peu le disque qu'ils allaient faire que lui-même savait le film qu'il allait faire. C'était dans Soigne ta droite en 1987, où il joue à peu près le même rôle que les Rolling Stones dans One Plus One, 20 ans avant. Merci Alain Bergala. En attendant, Godard chapitre 4, pour en savoir plus sur votre vision du cinéaste, on recommande instamment votre Nul mieux que Godard, édité au Cahier du cinéma, comme votre Godard au travail les années 60, dont vous nous aviez parlé dans le premier épisode de notre série, et puis les textes du maître que vous avez rassemblés en deux volumes, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Et puis bien sûr, on vous renvoie à la très complète et volumineuse biographie de Godard par Antoine de Beck, c'est chez Grasset. Pour voir Godard sur grand écran, tout Godard, mais aussi les films de sa partenaire et complice Anne-Marie Miéville, c'est à partir de mercredi prochain à la Cinémathèque française pour deux mois en partenariat avec Chanel. Mais oui, c'est dire si Godard est à la mode, à moins que ce ne soit le contraire. On vous y retrouvera évidemment, Alain Bergala, pour une discussion avec Bernard Benoliel jeudi 9 janvier à 19h30 à l'issue d'une projection de Pierrot le Fou. Et puis la rétrospective se clôturera en beauté, en principe, avec un dialogue avec Jean-Luc Godard lui-même, animé par Nicole Brenez et Frédéric Bonneau. Ce sera le dimanche 1er mars à 14h30. Ne tardez pas trop à réserver vos places. Enfin, si vous passez par Milan, n'hésitez pas à faire un tour à la Fondazione Prada, à qui l'ermite de Rolle a cédé des meubles au objets et appareils que vous connaissez bien, Alain Bergala, l'antre où il a créé tous ses films des 40 dernières années, là où il a reçu ses invités au rez-de-chaussée de sa maison vaudoise, il fait en effet désormais l'objet d'une exposition permanente. On peut également, sur sa télévision, voir une sélection de ses films, dont son dernier, le magnifique et bouleversant livre d'images monté et mixé sur le matériel qu'on voit dans la pièce. Et puis ça sent le cigare, on sent que Godard n'est pas loin. Et puis, raison supplémentaire d'un détour à Milan, il faudra vous dépêcher, dans la même Fondation Prada, le sarcophage de Spitzmaus, la plongée de Wes Anderson dans les collections du musée de l'histoire de l'art de Vienne, sous forme d'un magnifique et vraiment génial cabinet de curiosités géant, s'y tient jusqu'au 13 janvier, preuve par l'image que même quand il fait le commissaire d'exposition et donc du montage, l'auteur du Grand Budapest Hotel reste avant tout un cinéaste. Tiens, puisqu'on en parle...
I'm not leaving.
I beg your pardon?
I'm not leaving.
Why not?
I'm frightened.
Of what?
I fear this may be the last time we ever see each other.
Why on earth would that be the case?
Well, I can't put it into words, but I feel it.
Well, for goodness sake, there's no reason for you to leave us if you'd rather...
Come with me.
To fucking Lutz?
Please.
Give me your hand. You've nothing to fear. You're always anxious before you travel. I admit you appear to be suffering a more acute attack on this occasion, but... Truly and honestly. Oh, dear God, what have you done to your fingernails?
I beg your pardon?
This diabolical varnish, the colour is completely wrong.
Oh, really? Don't you like it?
It's not that I don't like it. I am physically repulsed. Perhaps this will soothe you.
What?
While questing once in... No, just listen to the words.
Please,
hush.
There.
While questing once in noble wood of grey medieval pine, I came upon a tomb, rain-slicked, rubbed cool, ethereal. Its inscription long vanished, yet still within its melancholy fissures...
Will you light a candle for me, please? In the sacristy of Santa Maria.
I'll see to it myself immediately. Remember, I'm always with you.
I love you.
I love you.
Ah, pardon!
Pour ceux qui n'ont pas l'image, il faut s'imaginer que face à Ralph Fiennes en concierge du Grand Budapest Hotel, donc de Wes Anderson, c'est une Tilda Swinton vieillie avec une invraisemblable coiffure en forme de pièce montée qui joue la cliente énamourée dont il convient de se débarrasser au plus vite. Tilda Swinton, ex-égérie underground de Derek Jarman, actrice extravagante, transformiste, transgénique, transgenre, totalement queer, icône de la mode et adepte du grand écart permanent entre des productions Disney, type Narnia ou Doctor Strange, et les univers radicaux d'un Bellatar. Et prochainement, Dapichakpong ou Eracetakul, c'est la bonne nouvelle. Elle est devenue la mascotte fétiche de Wes Anderson, de Bong Joon-ho et autres Jim Jarmusch. Et c'est d'ailleurs en Eve vampirique, tout droit sortie du Only Lovers Left Alive de ce dernier, qu'elle fait la couverture du dernier numéro de notre partenaire Sofilm, entre toile de Klimt dorée à l'or fin et Néo-Christ en lévitation. C'est dans sa grande demeure au fin fond des Highlands en Écosse, qui a répondu aux questions d'Axel Cadieux et Raphaël Clairfond, emmitouflé dans un chandail en laine et entouré de ses nombreux chiens, celle qui s'est toujours perçue comme une outsider, qui trouve d'ailleurs très bizarre qu'on ne se sente pas tous comme des aliens dans ce monde et qui se voit moins comme une actrice que comme une cinéaste. Fernando Ganzo, vous êtes au téléphone, fêtes et grèves obligent.
Oui, bonjour. Effectivement, Antoine, c'est vrai qu'il est, il est probablement impossible de trouver une actrice qui ait autant effacé les limites qu'est Tilda Swinton. Et, d'abord, à l'intérieur des rôles qu'elle interprète, qui comprennent tous les genres, tous les âges, mais aussi par l'ampleur du spectre des films dans lesquels elle s'investit, pouvant passer, comme vous résumiez très bien, des frères Coen à Marvel, de Wes Anderson, comme on vient d'entendre, à Bong Joon-ho, Bellatar, Jim Jarmusch, ou prochainement, non seulement à Pitchatom, vers Acetacool, mais aussi George Miller, à tel point que si on pouvait faire un jeu avec les personnes qui nous entendent, si on prononçait la phrase « Tilda Swinton est une actrice britannique de 59 ans », on se sentirait un peu bizarre en prononçant ça, parce qu'on aurait l'impression de beaucoup limiter ce qu'elle est vraiment, y compris dans le mot « actrice ». Elle-même l'explique, elle dit dans l'entretien « Je n'ai choisi jamais un rôle ». Je choisis un cinéaste avec lequel je vais bâtir un projet. Et à un moment donné, on se demande si je peux avoir un rôle à l'écran, si je peux aussi me reproduire en tant qu'actrice dans le film. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, je n'apparais pas. Je me contente de produire ou d'aider. le rôle est vraiment la dernière chose à laquelle je pense dans mon processus de création, c'est accessoire. Et paradoxalement, c'est grâce à son étrangeté, sa singularité dans le jeu, dans les méthodes, dans le choix des rôles, qu'elle a fini par devenir presque omniprésente, on aurait l'impression. Ce qu'elle résume ainsi, je me suis toujours perçu comme une outsider, je l'ai toujours été, je l'ai accepté, c'est un statut que j'ai embrassé. Étrangement, l'outsider a fini par être invité dans toutes ces sphères fréquentées par des insiders, mais je crois qu'au fond de moi, je n'ai pas changé. Alors, on se demande à quel moment précisément elle a été invitée inside. Probablement, si on est un peu sérieux, on dirait qu'en 2008, au moment où elle reçoit l'Oscar pour son rôle d'avocate dans Michael Clayton face à George Clooney. Comme elle dit, l'un des rares personnages normaux qu'elle interprétait dans sa carrière, ce qui est paradoxalement pour elle beaucoup plus compliqué. Car, je cite encore, « il y a vraiment des gens comme ça, donc ça limite l'imagination, je dois imiter. Or, je ne suis pas américaine et je ne suis pas avocate. Je pouvais clairement me tromper, alors qu'on ne peut pas vraiment se tromper quand on joue un vampire avec 300 ans. Elle n'a pas tort de signaler que ce rôle est exceptionnel dans sa carrière, compte tenu que déjà son premier rôle principal important, après sa période effectivement German, était celui d'Orlando, le personnage imaginé par Virginia Woolf et adapté par Sally Porter, ce personnage qui ne vieillit pas et qui change de sexe après des longues périodes de sommeil. Une fluidité qui fait d'elle une icône du mouvement LGBT très vite, une communauté qu'elle définit comme sa toute première maison en tant qu'adulte quand elle quitte la fac et rencontre Derek Jarman à Londres. Et elle résume ainsi. « Je suis queer ». Et cela n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est une question des sensibilités et un certain sens de la communauté. C'est comme ça que je me suis toujours positionné. Je l'étais déjà quand j'étais plus jeune, mais j'étais seul. Et depuis, cette fan absolue de Roger Livesay, l'acteur de Powell et Pressburger, pousse cette idée de fluidité, de briser les frontières de ce qui est censé être le rôle d'une actrice. Elle méprise même, ça tombe bien pour une émission, on a souvent parlé de Godard et l'idée des muses, et c'est une notion qu'elle trouve démodée, qu'elle méprise parce que, entre guillemets, les cinéastes impétueux ont juste besoin des collaborateurs. Et elle arrive à ce point extrême, celui de devenir elle-même une installation artistique. Ce qu'elle a fait dans des musées, vraiment littéralement, à Londres, à Rome et à New York, allongée dans une cage pendant plusieurs heures, pendant lesquelles les spectateurs peuvent s'approcher d'elle, geste qu'elle compare à un gros plan du cinéma. Celle qui a même trompé l'équipe technique des Suspiria en se faisant passer par un vieil acteur allemand inconnu, celle qui a joué tous les genres, tous les âges, à une époque où le cinéma rattrape numériquement ce qu'il arrive à faire avec son corps depuis le début de sa carrière, nous aura marqué surtout pour cela. Peut-être pour avoir aidé comme personne à ce que le cinéma reste un art des corps et des présences singulières, immortelles et même vampiriques.
All right, I'll come. But I can't believe you're doing this to me again. It's just the traveling that's such a drag.
Eve, I love you so much.
I'll take that. Or the journey.
Merci Fernando Ganzo. En attendant donc les prochains films d'Apichak Pong, Werasata Cool et de George Miller, Tilda Swinton est dans ce film avec aussi un reportage sur l'escalier de Joker et un retour sur le scandale suscité en son temps par la grande bouffe de Marco Ferreri. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alain Joubert. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Anne Fleury. La semaine prochaine, plan large sur la Screwball Comedy avec les sœurs Clara Clara et Julia Cooperberg, pardon, qui ont rassemblé quelques fleurons du genre dans un coffret DVD et y ont consacré un documentaire. Et puis Anne Tebbin sera aussi des nôtres pour évoquer l'inépuisable Elmer Gantry, le charlatan de Richard Brooks, édité récemment en version restaurée Blu-ray et DVD. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.